Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle. Je vous dirai celle de Nelson, ma mère et moi. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Ma mère, qui se moquait comme d'une guigne de ceux qui relevaient de la science officielle, se passionnait par contre pour tout un univers étrange, parallèle et ésotérique, dans lequel se côtoyaient, dans un équilibre bancal, les tarots, les civilisations disparues, les rites de méditations alternatifs et la métempsychose. Cette dernière question, celle de la réincarnation d'un mort dans le corps d'un animal, ne quittait jamais vraiment son esprit, et il n'était pas rare qu'au milieu de la conversation la plus banale échangée avec des gens qu'elle connaissait à peine, elle demanda sans fard et tout à trac, « Vous y croyez ?»« À quoi ?» lui répondait-on, l'œil luisant de surprise. « Eh bien, au fait que, quand nous mourrons, notre âme migrera dans le corps d'un animal. » La plupart du temps, ses interlocuteurs la regardaient d'un air gêné et elle savait qu'il ne fallait pas insister. Ma mère n'était pas une folle, pas du tout. Mais parfois, elle tombait sur quelqu'un que le sujet intéressait ou qui y croyait dur comme fer. Et dans ces cas-là, elle pouvait en parler pendant des heures. En fait, le fondement de sa philosophie, comment appeler cela autrement, était qu'aucune chaîne de vie ne pouvait être rompue. À cela se juxtaposaient des corollaires étonnants, comme ce qui la conduisait, d'un strict point de vue domestique, à une haine absolue du gaspillage des denrées alimentaires. Ainsi, le moindre quignon de pain, fût-il aussi dur qu'une pierre, devait être mangé jusqu'à la dernière miette. Les deux choses étaient liées, sans conteste, même si j'aurais du mal à expliquer comment. Si maman était là, elle le démontrerait sans peine, grâce à ce mélange de logique personnelle, de passion et de mauvaise foi qui l'habitait dès qu'elle abordait ces sujets. Mais moi je ne peux pas. Je suis trop terre à terre. Et depuis qu'elle est morte, je réalise à quel point sa fantaisie me manque. Adolescent, excédé par l'amour mystique qu'elle portait aux animaux et pour la pousser dans ses derniers retranchements, je lui avais un jour demandé ce qu'elle ferait si elle devait choisir entre sauver une vache ou bien me sauver moi, son propre fils. Elle m'avait répondu que, si la situation se présentait, elle sauverait sans hésiter celui des deux animaux qui lui semblerait le moins stupide, ce qui m'avait carrément cloué le bec. Et une autre question, par contre, l'embarrassa beaucoup plus longtemps. C'était celle-ci. Qui se réincarne dans quoi et où? Par exemple, comment pouvait-elle être certaine que telle vieille tante qu'elle haïssait s'était transformée en vipère? La dite vipère s'étant installée près du puits de la ferme où vivait la dite tante. Ou bien, qu'est-ce qui prouvait que sa meilleure amie, Nicole, était devenue la tourterelle turque qui roucoulait inlassablement dans notre cerisier. Un peu gênée aux entournures, elle s'en tirait par des réponses à l'emporte-pièce. Venimeuse elle était, venimeuse elle restera, pour la tante. Et pour Nicole, mais il n'y a qu'elle, pour parler comme ça, pendant des heures, pour ne rien dire.
Crée-moi, crée-moi pas, quelque part en Alaska, y'a un phoque qui s'ennuie en maudit. Sa blonde est partie, gagner sa vie dans un cirque aux États-Unis. Le phoque est tout seul. Il regarde le soleil qui descend doucement sur le glacier. Il pense aux états en pleurant tout bas. C'est comme ça quand ta blonde t'a lâché. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais. Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands. Quand le phoque s'ennuie, il regarde son poêle qui brille comme les rues de New York après la pluie. Rêve à Chicago, à Marilyn Monroe. Il voudrait voir sa blonde faire un show. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui est assis sur la glace, les deux mains dans la face. Mon amour est parti, puis je m'ennuie. Ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller sur son nez. Ça fait rire les enfants, ça dure jamais longtemps. Ça fait plus rire personne quand les enfants sont grands.
Ma mère, après beaucoup de réflexions, finit par déterminer les lois fondamentales de la réincarnation le jour de l'enterrement de mon père, qu'elle adorait. Elle s'était allongée, épuisée, lourde de chagrin, sur une chilienne au fond de son jardin, quand elle aperçut un magnifique lézard vert. Elle m'appela aussitôt. « Regarde, regarde, c'est lui, c'est ton père, C'est Hubert, Hubert !» J'essayais de la calmer, mais cela ne servit à rien. Le vert était sa couleur préférée, tu le sais bien. En plus, les lézards verts éloignent les serpents, et j'ai peur des serpents. Il a fait ça pour moi. Sur le moment, je préférais ne pas insister. Je pensais que cette idée s'envolerait avec le temps, mais il n'en fut rien, et tout ce que je pus obtenir d'elle sur ce sujet, par la suite, c'est qu'elle n'appela pas ce lézard du prénom de mon père en ma présence. L'éruption de ce reptile hiératique est fort beau au demeurant. Devais-je admettre avec une pointe d'inavouable jalousie, eut pour effet secondaire de permettre à ma mère de découvrir les trois lois qui gouvernaient la métempsycose dans son ensemble. Loi 1. Le corps d'accueil, autrement dit l'animal, dans le sabir qu'elle utilisait pour évoquer ces sujets-là. Le corps d'accueil, donc, apparaît dans le monde des vivants le jour où le corps fuyant, la dépouille du mort, bien sûr, s'en retire. Loi 2. Le mort choisit le corps d'accueil selon les goûts, les tendances, les manies ou les habitudes qu'il avait pendant sa vie. Loi 3. Celui qui découvre le réincarné sait immédiatement qui il était avant. On voit que cette dernière loi permet de résoudre à peu de frais bien des contradictions, mais dans l'ensemble, je trouvais que son système était plutôt sensé et d'ailleurs, elle fit une démonstration éblouissante de la véracité de ses théories quand elle ramena Nelson chez elle. Nelson était une tortue. Que dis-je ? Nelson est une tortue qu'elle sauva un jour sur la route, au milieu d'un flot de voitures et de camions. Ma mère pit la nette et, au péril de sa propre vie, arracha l'animal au bitume et le jeta sur son siège arrière. Elle commença par le sermonner d'importance, puis, se souvenant qu'on venait d'enterrer, le jour même, en Afrique du Sud, Nelson Mandela, elle s'excusa aussitôt, fit passer la tortue à l'avant et lui promit le gîte et le couvert jusqu'à sa mort. Il faut dire qu'elle idolâtrait Mandela. Et, quand on lui demandait pourquoi, selon elle, le grand homme avait choisi cette nouvelle enveloppe, elle ne manquait pas d'arguments. La tortue avait de beaux yeux doux et aimables. Elle semblait toujours sourire. Les enfants l'adoraient. Elle allait toujours son chemin sans se soucier de ce qui l'entourait. Elle pouvait vivre en captivité sans rien renier de sa vérité, etc., etc. Sa démonstration était si fournie et si passionnée qu'il était impossible de s'y opposer.
Soir. terrible jungle, le lion est mort ce soir.
Après avoir accompli des prodiges dans un corps humain, Nelson vint donc s'installer, modeste et silencieux, dans le jardin d'un pavillon de banlieue toulousain pour y couler des jours paisibles et heureux. Assez ébranlé, dois-je dire, par l'arrivée de la tortue, je demandais à ma mère, quelques semaines plus tard, en quel animal elle pensait que je me réincarnerais si je venais à décéder. Elle refusa de répondre. « Si quelqu'un le sait, c'est toi. Personne d'autre. Et toi, tu sais sous quelle forme tu reviendras ?»«
Oui. » »«
Alors, tu verras bien. » »«
Maman,
je vais te donner un indice. Je reviendrai vivre dans ce jardin. » Et elle montra d'un geste circulaire de la main ce qui nous entourait. Je haussai les épaules et dis « De toute façon, j'y crois pas. »«
Je sais, » répondit-elle, « mais tu auras des surprises. Je n'ai pas l'intention de te laisser tomber tant que je n'ai pas fini le travail. »
Je savais à quoi elle pensait. Et, un doigt menaçant pointé vers elle, je lui ordonnai de ne pas prononcer le mot « mariage ».«
C'est toi qui en parles !»
dit-elle d'un ton léger. Puis elle prit ma main et m'entraîna vers l'enclos de Nelson.
« Viens,
allons voir le vieux sage. Il nous sera de bons conseils. » Mon agacement s'effaça aussi vite qu'il était apparu. Ça se passait souvent comme ça, quand elle vivait encore, entre Nelson, ma mère et moi. Puis elle est partie. Elle s'est envolée, et une nuit, dans son sommeil, sans avoir donné le moindre signe de fatigue ou de maladie. Je ne l'avais pas vue depuis le dimanche précédent. Nous étions le jeudi. Une femme de ménage, qui la visitait toutes les semaines et qui avait les clés de sa maison, la découvrit dans son lit et la trouva si paisible qu'elle crut d'abord qu'elle dormait encore.
La vie c'est comme les papillons, d'abord chenille dans son cocon, et puis un beau jour sortir du coton, se retrouver en plein soleil, bâiller en déployant ses ailes et s'envoler. Comme les papillons, yeah, yeah, aux trois petits tours et puis partir. Hey, yeah. Car papillon, jamais revenir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours
l'amour. Papillon du soir, toujours, 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 toujours au choix.
Toujours au choix, toujours au choix, toujours au choix.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours
l'amour. Papillon du soir, mouchoir. Les hommes, tout comme les papillons, d'abord pleuraient dans les jupons. Et puis un jour quittait la maison. Tuilou volait de balcon en jardin, planait de bonheur en chagrin. Tuilou de papa l'amené bébé.
Il y eut peu de monde à l'enterrement de maman. Les quelques amis qui lui restaient, et les miens, et une dizaine d'inconnus, ses voisins, sans doute. Après une brève cérémonie, au cimetière, je rentrai chez elle et je fus surprise et attristée par l'immense silence qui y régnait. Pour résister, vaille que vaille, à l'onde de chagrin qui montait en moi, je décidai d'aller passer un moment avec Nelson, qui devait se sentir bien seul, lui aussi. Il vint à ma rencontre de son pas de sénateur, plein de noblesse et de dignité, et accepta les quelques pissenlits que je lui donnais. « Tu manges par politesse, hein, mon vieux. Je vois bien que toi aussi, tu en as gros sur la patate, » lui dis-je. Et il me répondit avec un regard plein de compassion. Je revins à la maison et avant de partir, je décidai de mettre dans le jardin une dizaine de quillons de pain que ma mère, dans sa haine du gaspillage, gardait envers et contre tout. Après tout, les donner aux mulots et aux lapins de passage, ce n'était pas vraiment les jeter, pensais-je. Puis je fis un tour rapide des différentes pièces, coupai l'électricité, l'eau, le gaz, fermai les placards et les armoires, me promettant de revenir vite pour commencer à tout ranger. Et je m'apprêtais à m'en aller quand je vis, sur la terrasse, un merle qui ramenait vers moi un des bouts de pain que j'avais jeté. Il le déposa à mes pieds, puis alla en chercher un autre, qu'il m'amena aussi. Puis il m'observa de son œil rond, noir comme du charbon, et je crus lire dans ce regard un éclair de malice et de complicité. Je m'accroupis, tendis ma main au merle, et il vint se percher sur mes doigts. Jamais je n'avais vu un oiseau aussi peu farouche. Je me dis que ma mère, sans doute, l'avait un peu dressé et habitué à la présence des humains, et je la remerciai, des larmes dans les yeux, de ce cadeau qu'elle me faisait par-delà sa tombe. Je revins 2 jours plus tard pour tout ranger, et sous l'œil placide et bienveillant de Nelson, j'entrepris de mettre de l'ordre dans les affaires de ma mère. Le merle était toujours là, et, à intervalles réguliers, je lui donnais du pain et il m'en ramenait quelques bouts, puis sautillait jusqu'à moi et se posait sur mes mains ou sur mes genoux. J'étais avec lui au fond du jardin quand une voix féminine me héla. Une jeune femme, charmante, dans une robe d'été multicolore, apparut sous la glycine. L'ombre voilait un peu ses traits, mais je devinais qu'elle souriait et qu'elle avait les yeux bleus. Elle s'avança et je la reconnus. Je l'avais vue aux funérailles de ma mère. « Je vous prie de m'excuser, » dit-elle. « Je suis la voisine et je voulais vous présenter mes condoléances. Le jour de l'enterrement, je n'ai pas pu vous parler et je voulais vous dire à quel point j'ai aimé votre maman. Elle m'a beaucoup aidé à un moment où je me sentais très seule. Et voilà, je voulais que vous le sachiez. Voilà, elle va me manquer. » Elle soupira et semblait sincèrement émue, mais très vite, un sourire revint sur ses lèvres et, sans que je puisse lui répondre, elle ajouta aussitôt « Je venais aussi pour vous proposer mon aide. Je peux m'occuper de Nelson le temps que vous trouviez une solution pour lui. » « Ah, vous connaissez Nelson ? » « Oh oui, nous sommes très complices, lui et moi. » « Ça ne m'étonne pas, » répondis-je. « J'ai toujours pensé que ce vieil animal avait une âme de séducteur. » Elle éclata de rire. « Oh, vous savez, c'est en tout bien tout honneur. » Le merle choisit cet instant-là pour faire son irruption et déposer au pied de la jeune femme un bout de pain sec. Elle poussa un léger cri de surprise. Le merle s'envola, et comme il l'avait fait avec moi, il alla chercher un second morceau et le ramena près d'elle. « C'est vous qui l'avez dressé ? » demanda-t-elle stupéfaite. « Non, il était là. » Je pense que c'est ma mère qui l'a apprivoisé, mais elle ne m'en avait jamais parlé. « À moi non plus, » dit-elle, fascinée par le jeu de l'oiseau qui était venu se blottir contre son épaule et la fixait avec malice. « À moi non plus. » Nous restâmes un moment silencieux, un long moment, je crois, car nous ne sortîmes de notre rêverie que quand le merle s'en alla et nous laissa seuls dans le crépuscule naissant. Elle bredouilla alors qu'elle était désolée, qu'elle m'avait fait perdre mon temps, que j'avais bien d'autres choses à faire que rester là avec elle. Et puis elle m'invita à dîner. « Pour me faire pardonner, » ajouta-t-elle, « je vous en prie, acceptez. » J'ai accepté. Et à compter de ce soir-là, nous ne nous sommes jamais vraiment quittés. Nous nous sommes installés ensemble dans la maison de ma mère. C'était la meilleure solution et ça réglait le problème du rangement. En plus, Nelson était ravi. Nous avons trouvé une compagne pour lui. Ils sont sexuellement très actifs, tous les deux, ce qui est un signe de bonne santé. Et nous attendons avec impatience que le jeune couple fonde une dynastie. Quant au merle, nous ne l'avons jamais revu.
Le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes.
C'est vrai,
tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé.
C'est comme les bottines à boutons.
Une cloche dès qu'il joue de sa trompette vous rend fou.
Ça swing comme un pied.
Mais oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis,
quelle calamité.
C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter.
Ben, c'est un gars, le seul qui sache, sa chaîne à swinguer.
Qui donc danserait encore la gigue avec des nattes?
Quand tout le monde veut devenir un cat. Une cloche, quoi qu'il joue, bientôt ça vous rend fou. Ça swing comme un pied.
Oh, rinky tinky tinky.
Oui, c'est pire que l'ennui. Oh là là, mes amis, quelle calamité.
Oh, rinky tinky tinky.
Oui, tout le monde veut devenir un cat. Parce qu'un chat, quand il est cat, retombe sur ses pattes. À jouer du jazz, on devient vite un acrobate. Oui, tout le monde qui est dingue du swing des cats.
Qu'à jouer en d'autres clés, modulé, oh oui, ça me plaît, car j'adore faire certaines petites variations. Les autres chats vont s'assembler dans la ruelle mal éclairée,
la grande nuit va commencer.
Nous les